Bonsoir.
Vous êtes avec nous de San Francisco en duplex. Avant d'évoquer avec vous les maux de la pandémie et puis aussi la situation très particulière de la capitale de la Silicon Valley, une question, Cécile Alluy. Vous vivez, vous enseignez à San Francisco depuis des années. Qu'est-ce qui vous a magnétisé? Est-ce que c'est l'ancienne capitale du Flower Power, la ville de Janis Joplin, de Jimi Hendrix? Ou est-ce que c'est au contraire la modernité presque digitale de la ville qui vous a attiré?
Alors moi, je suis venue avant le boom digital qui a plutôt abîmé cette ville très belle. J'enseigne à Stanford et ça fait 10 ans qu'elle a été mangée par les grandes compagnies comme Twitter, Salesforce, etc. et a paupérisé toute la population qui ne peut plus se permettre d'y vivre à cause de l'inflation, à la fois des loyers et de l'habitat en général. Donc non, moi, la ville que j'aimais, d'abord, c'est un cadre naturel, magnifique avec la baie de San Francisco, et c'est son petit grain de folie qui m'avait attiré.
Cécile Alluy, quoique basée et vivant à San Francisco, vous êtes très attentive au langage, à toute la communication qui depuis 2 mois entoure l'apparition de cette pandémie. Comment voyez-vous l'utilisation d'un langage très martial, très belliqueux par Emmanuel Macron, le président français? A-t-il pour but d'infantiliser, de rassurer les Français? Comment l'analysez-vous?
Oui, alors d'abord une petite correction factuelle. Je suis née en 74 à Boulogne, parce que ça circule sur Wikipédia, donc ce sera fait pour toujours.
Très bien.
Mais sinon, pour la métaphore martiale, je crois qu'elle avait un but politique, qui était de mobiliser la population française et de la terroriser un petit peu, pour lui imposer de rester confinée de façon très disciplinée, ce qui n'était pas gagné d'avance. Mais l'effet civique, si vous voulez, c'est de déresponsabiliser le pouvoir lui-même qui n'a pas été en mesure d'anticiper la crise, et en nommant un ennemi extérieur, en anthropologisant, en personnalisant le virus, on se place en victime d'une attaque qui n'a pas eu lieu. Donc c'est une métaphore totalement trompeuse qui, bien sûr, peut être efficace pour mobiliser, pour imposer un état d'urgence qui, en général, a lieu dans des moments de crise lorsque la nation est attaquée. Mais c'est une stratégie rhétorique.
Claude,
quand on parle de geste barrière, est-ce que ça signifie que l'autre est l'ennemi? La barrière, c'est ce qu'on ne franchit pas. Est-ce qu'il y avait une autre manière de nommer les gestes de protection collective?
Certainement, car effectivement, le risque de toutes ces métaphores, même la distanciation sociale, c'est de créer une société de la défiance où l'autre est considéré d'abord comme un danger potentiel, et la quarantaine elle-même participe de cette idée, plutôt que comme un alter ego, quelqu'un comme soi, qui est potentiellement mis en danger par nous-mêmes. Donc on projette toujours sur l'autre le danger sans responsabiliser les uns et les autres par rapport à ce qu'eux, ils représentent comme danger. Je pense que ici, on a parlé de la socialisation distante. Hein, c'est-à-dire
ici, c'est aux États-Unis, hein, San Francisco.
Ici, c'est dans la baie. C'est-à-dire que la socialisation, elle continue, elle doit continuer, mais on la fait physiquement à distance. Mais ça ne veut pas dire émotionnellement à distance ou politiquement à distance. Et ça change un petit peu le regard.
Cécile Alduy, en anthropologie, la proxémie, ça a été théorisé dans les années 60, c'est le réglage des distances physiques entre individus dans la vie quotidienne. On est en plein dans ce domaine. Que vous inspire l'expression « viens loin de moi » qui résume d'une certaine manière le problème dans lequel nous sommes, l'envie de l'autre et en même temps la nécessité de réfréner notre envie de l'autre?
C'est une très belle expression que je n'avais pas encore entendue. Je pense qu'on est vraiment dans le paradoxe du déconfinement, c'est-à-dire ce qui a été imaginé par beaucoup comme un élan de liberté, un retour à la spontanéité, à la possibilité de se mouvoir et d'approcher les autres comme on le voulait, avec cette barrière invisible, en fait, qui est psychologique, que l'on se pose à nous-mêmes en imaginant cette distance de sécurité vis-à-vis des autres. C'est tout le paradoxe que moi je ressens en fait au quotidien en tant qu'exilé ou qu'expatrié, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien émotionnel, amical ou autre avec des gens qu'on aime ou dont on est proche, mais une distance physique qui est infranchissable.
Vous évoquiez le langage martial d'Emmanuel Macron. Aux États-Unis, dans la baie de San Francisco, je crois qu'une expression « shelter in place », expression qui est tirée des manuels qui permettent d'échapper au danger d'une radiation nucléaire, une expression qui est aussi utilisée quand il y a une fusillade de masse, c'est l'expression qu'a utilisée la maire de San Francisco. C'est excessivement violent et plus que martial, « shelter in place », ça fige quasiment les gens.
Alors c'est ça le paradoxe, c'est que l'expression elle-même, elle vient effectivement des manuels de réaction aux attaques, originellement aux attaques nucléaires, et puis ça a été repris lorsqu'il y a ce qu'on appelle les lockdowns dans les lycées lors de fusillades. Mais concrètement, cette ordonnance, elle est beaucoup moins restrictive que ce qui a été le confinement en France. C'est-à-dire qu'on a le droit de sortir, on n'a pas besoin de passe d'autorisation, on n'a pas de restriction de durée sur la sortie, du moment qu'on respecte un périmètre qui est celui de la ville entière de San Francisco, donc assez grand quand même, et qu'on respecte aussi cette distance vis-à-vis des autres qui sont de 2 mètres aux États-Unis. Donc en fait, en responsabilisant les personnes, et il y a très peu de contraventions également, parce que l'idée c'était de faire de la pédagogie et pas de la sanction, de même les sans-abri ne peuvent pas être verbalisés pour ne pas être en « shelter in place », cette responsabilisation, elle aboutit finalement à un mode de vie en pseudo-confinement qui laisse beaucoup de liberté pour aller dehors, pour profiter de la ville, mais avec ce respect des autres.
Claude,
vous vivez dans une ville privilégiée, mais qui a peut-être mérité son privilège. San Francisco a été beaucoup moins touchée par l'épidémie, par la mortalité, que New York, par exemple, sur la côte Est. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, d'abord, San Francisco a anticipé, en tant que communauté et pas seulement en tant que ville administrée par la maire, ce qui se passait dans d'autres pays. On a été confinés avant la France, alors qu'il y avait presque 0 cas. Et ceci s'explique en partie par notre proximité avec la Chine, géographiquement et psychologiquement, 35% de la population de San Francisco est d'origine asiatique. Et par aussi le leadership des grands GAFA, dont on aime bien casser du sucre sur le dos, mais
les grands groupes de la tech.
Voilà, Amazon,
Google,
qui ont renvoyé leurs employés chez eux pour faire du télétravail début mars, avant tout le monde. Ce qui a provoqué une prise de conscience de l'ensemble de la population très 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 tôt, et un confinement aussi extrêmement tôt. Les écoles ont été fermées avant la France, une fois de plus. Cette anticipation, en fait, dans une pandémie où la propagation est exponentielle et se multiplie par 2 tous les 2 jours, elle est cruciale. Quand on gagne 2 jours, on gagne sur le long terme énormément de cas épargnés. Donc aujourd'hui, on a eu 35 morts à San Francisco depuis le début, sur une ville de près d'un million d'habitants. Donc 10 fois moins de taux de mortalité qu'en France. Quand même.
Donc ça, c'est le versant radieux et positif de la prise en main par les GAFAM, notamment de la santé, de toute la prophylaxie. Le côté plus obscur de l'histoire, c'est peut-être la digitalisation de la vie, l'ubérisation de la vie quotidienne qui évacue, enfin j'imagine, un certain nombre de gens de San Francisco, de la zone de la baie. Ça devient une ville virtuelle, une vie complètement dématérialisée. Avec des risques sociaux.
Pas pour tout le monde, mais en fait, ce que vous pointez ici, c'est qu'on était déjà passé au digital. Donc, le basculement sur le télétravail, sur l'école à la maison, moi, ma fille avait déjà un ordinateur alors qu'elle est en 6e, donc ça s'est fait automatiquement. Enfin, il y a eu de la préparation pendant 2 semaines, mais ça a été extrêmement facile. Et l'ubérisation, ou le fait que c'est une ville essentiellement de résidence particulière avec beaucoup d'utilisation de la voiture, fait que tout était déjà, entre guillemets, sans contact. On commande sa pizza ou ses sushis, on fait son rendez-vous amoureux sur Tinder, etc. Donc, il y avait déjà cette distance de la vie digitale qui était installée et qui s'accompagne, en fait, d'une distanciation de classe et une distanciation ethnique, parce que c'est une ville extrêmement ségrégée. Donc, les quartiers où il y a des clusters, ce sont ceux où il y a un habitat très dense et, surprise, surprise, bien sûr, ce sont les quartiers à majorité hispanique ou noire. Donc, cette division sociale, elle existait avant la crise.
Et elle risque éventuellement de se renforcer. Merci.